France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est virevoltant de plaisir qu'ils se sont présentés dans ce studio limite en moonwalk. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Frédéric Farah, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphanie Vonneux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente Les Républicains du Conseil Régional d'Île-de-France. Yannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Du Parisien aujourd'hui en France. Et Sophie Fay, bonsoir.
De
l'Obs. Et ce soir, on parlera politique avec vote PS, mais également l'ancien vote chez les Républicains. Que pèsent encore ces deux partis historiques? On parlera également d'Emmanuel Macron qui prend l'air pour défendre ses réformes, des retraités qui ne décolèrent pas. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et maintenant, on va commencer par un petit jingle. Oui, parce qu'en fait, c'est l'instant SNCF, en fait, parce que de l'émission, comme ça, comme nous serons sûrement amenés à en reparler, on s'est dit qu'on va en faire. Voilà, on a travaillé un petit peu, donc j'espère que vous appréciez, en tout cas. Après la présentation des lois d'habilitation, des ordonnances présentées hier en Conseil des ministres, c'est au tour de Guillaume Pepy, aujourd'hui, d'avoir présenté son plan d'attaque. Il a été reçu aujourd'hui au ministère des Transports. Le président de la SNCF a annoncé le programme des discussions d'ici l'été, encourager la polyvalence des métiers et rendre l'organisation du travail plus souple. Guillaume Pepy insiste, les ponts ne sont pas rompus avec les syndicats. Alors, mais on sent qu'ils ne sont pas construits non plus, ces ponts, puisque il a confirmé la fin du statut de cheminot pour les prochains embauchés. En attendant, il faut continuer à négocier. C'est ce qu'a répété ce matin la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
On doit construire une réforme qu'on a trop longtemps différée. On a mis beaucoup de choses sous le tapis, on fait semblant de ne pas voir les problèmes, et on l'a fait pendant très longtemps. Mais les problèmes, ça n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils n'existent pas. Donc il faut en parler, il faut parler de l'ouverture à la concurrence, il faut parler de l'organisation de la SNCF pour qu'elle soit plus efficace, il faut parler de sa situation financière. Il y a une dette gigantesque à la SNCF, et il faut en parler parce que c'est vraiment l'avenir de la SNCF qui est en question.
Voilà, Elisabeth Borne, ministre des Transports, ce matin sur France Inter, elle n'a pas du tout été entendue par les syndicats, puisque ça y est, on le sait, maintenant, les syndicats de la SNCF ont donc appelé les cheminots à entamer une grève reconductible de 2 jours sur 5, à partir des 3 et 4 avril, avec un calendrier de mobilisation s'étalant jusqu'au 28 juin. Juste au début, Yannick Halimi, c'est vrai que c'est un petit peu confus, ces annonces de syndicats, parce que ce n'est pas une grève dure, c'est-à-dire 7 jours sur 7, avec des AG en permanence. Là, on sent que c'est une grève perlée.
Voilà, je crois que je vous avais dit le mot. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de mouvement de grève massif, reconductible, et sans surtout qu'il y ait de fin à ce mouvement de grève, puisqu'il va être reconduit quelques jours par semaine, en tout cas pour la CFDT. Et puis,
CGT Cheminot, l'UNSA Ferroviaire, Sudrail, la CFDT
pour
Cheminot.
Tous, d'accord. C'est sur peut-être ce constat de demi-échec ou de demi-victoire que se fait peut-être l'unité syndicale, parce que par ailleurs, c'est peut-être ce qui différencie ce mouvement à l'heure qu'il est, parce qu'évidemment tout peut tourner, il faut voir les négociations, il faut voir comment aussi se passent les autres mouvements de mécontentement dans la population, mais à l'heure qu'il est, on n'a pas l'impression quand même qu'il y ait un front syndical comme il y a pu en avoir en 1995, vous vous souvenez, où Marc Blondel, le patron de France Ouvrière à l'époque, serrait la main, mais c'était vraiment une image mythique, emblématique à son homologue de la CGT qui était Monsieur Vianney, je crois, à l'époque.
Vianney.
On n'en est pas là, on est quand même face à des syndicats, notamment la CGT, qui était le number one, le leader à la SNCF, qui l'est toujours, mais enfin qui sont un peu dévitalisés. Donc pour le moment, effectivement, le commentaire sur la photographie qu'on a, c'est que ils font ce qu'ils peuvent,
on ne se dirige
pas vers un blocage de la France, a priori.
C'est ça, Frédéric Farah, ils doivent se retrouver à nouveau le 21 mars, donc ça veut dire la veille en fait de ce mouvement pour établir plus précisément l'appel. Qu'est-ce que ça semble compliqué de se mobiliser ensemble, de se mettre ensemble pour les syndicats?
J'ai l'impression qu'on peut y voir un peu, si vous voulez, ce qu'on avait vu avec la réforme du marché du travail. C'est-à-dire que le front syndical avait apparu un peu divisé, avait du mal à former un tout cohérent face au projet du gouvernement. Là encore, on voit bien que les syndicats sont hésitants, ils ont du mal. On a vu récemment l'intervention de FO aussi, qui avait jeté un peu le trouble aussi dans le monde syndical. Là, je crois effectivement qu'on n'en est pas encore à la, à la mobilisation, même si la manière dont le gouvernement a présenté les choses peut inviter à le faire, puisqu'en quelque sorte, le discours du gouvernement, c'est, peut-être c'était intentionnel ou non, de laisser entendre que la dette, les difficultés étaient inhérentes au statut de cheminot. Et pour les syndicats, c'est quand même une ligne rouge de, et en cela on peut les comprendre, d'expliquer la dette ou les problèmes de la SNCF uniquement par ce statut. Et d'avoir pointé là-dessus. Mais en même temps, c'est très habile du gouvernement d'avoir fait une chose pareille, parce que si les syndicats se mobilisent uniquement sur cette question, ça fait comme une crispation sur un statut. Alors que la question centrale, c'est la défense du service public.
Stéphanie Bonneau, ils l'ont finalement, comme le dit les syndicats, cherché le gouvernement cette grève en franchissant cette ligne sur le statut de cheminot.
Non, je pense pas qu'il l'ait cherché, mais ça montre là, pour reprendre les commentaires qui ont été dits, on voit bien qu'il y a une forme de gêne des syndicats, mais parce que pour la première fois, je crois, sur ce type de questions, les choses, enfin l'environnement a considérablement changé. Il a changé, de mon point de vue, de deux façons, enfin de deux accès. Le premier, c'est que vous avez une majorité de Français qui n'est pas opposée à cette réforme, puisque on a vu passer un certain nombre de sondages, puisque je crois que ça tourne autour de 63 ou 64% de Français qui estiment qu'effectivement la SNCF doit se réformer. C'est un premier point qui est majeur, parce que je me souviens d'il y a quelques années, où alors même que le pays était bloqué, vous aviez encore une majorité de Français qui disaient bah oui, ce sont des acquis sociaux, ça, c'est pas totalement incohérent qu'ils se battent pour les défendre. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, ou en tout cas c'est moins vrai, c'est le premier point. Et le deuxième point qui explique peut-être le premier, c'est aussi de dire que depuis quelques mois, il y a le sentiment que beaucoup de secteurs se sont réformés. Souvent, on disait qu'un des derniers bastions avec la SNCF, c'était la classe politique qui ne s'appliquait pas à elle-même les réformes qu'elle demandait aux Français. Ce point-là a été, pour partie en tout cas, réglé.
En partie,
et que donc, pour partie, mais en tout cas, oui, mais sur des éléments qui ont suffisamment fait débat, d'ailleurs, dans vos émissions. Donc, on ne peut pas dire que la classe politique s'épargne ce travail de réforme, et que donc, aujourd'hui, les cheminots, ou en tout cas les syndicats, se retrouvent un petit peu isolés sur ce précaré de défense absolue d'un acquis.
Alors, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, Léo Técher.
Et donc cet appel à faire la grève, 2 jours sur 5, voilà le bras de fer que promettaient les syndicats de la SNCF au gouvernement. Ils décident ce soir d'une grève reconductible sur 3 mois à partir des 3 et 4 avril prochains. Fort le fol, Carvuna sous Morel, 4 noms pour un fauteuil, celui de premier secrétaire du Parti Socialiste. Les 102 militants ont encore un peu moins de 2 heures pour voter dans leur fédération. Deuxième tour prévu dans 2 semaines, le 29 mars. Plus de 22 millions de personnes en détresse au Yémen. C'est 3 millions de plus que l'an dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce la forte dégradation de la situation humanitaire dans ce pays de la péninsule arabique. Le patrimoine de Johnny Hallyday pas encore gelé. Le tribunal de grande instance de Nanterre rend voit l'audience en référé au 30 mars. Les avocats de Laura Smet et David Hallyday demandaient plus de temps pour pouvoir consulter toutes les pièces du dossier, notamment celle sur l'album posthume de Johnny. Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez dans la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France de football. C'est la dernière liste avant celle des 23 pour la Coupe du Monde en Russie. Et c'est donc l'occasion pour les petits nouveaux de se montrer contre la Colombie et la Russie les 23 et 27 mars prochains.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est donc maintenant les modalités de cette grève proposée par les syndicats, effectuée par les syndicats, donc 2 jours sur 5, donc une grève reconductible de 2 jours sur 5 à partir des 3 et 4 avril, calendrier de mobilisation jusqu'au 28 juin. Sophie Fay, un mouvement syndical qui peut faire bouger le gouvernement?
Ah, c'est clair, puisque moi j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans une guerre de tranchées là. Personne se met dans sa tranchée en attendant, en disant on bloque tout. On est vraiment dans une guerre de mouvement. Les syndicats annoncent une grève qui n'est pas tout de suite. Ils bloquent pas la France à partir du 22 mars avec les fonctionnaires, avec les salariés d'EHPAD ou avec tous les mécontentements, comme le voulait une partie de la CGT qui voulait tout de suite rentrer dans une grève dure contre la finance, contre la financiarisation du monde, contre toute la politique du gouvernement. Là, pas du tout. On est dans une grève qui ne démarrera encore que le 3 et 4 avril. Et d'ici au 3 et 4 avril, il peut se passer pas mal de choses. Et puis de l'autre côté, on a le président de la SNCF, hein, Guillaume Pépi, qui a proposé quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui. Il a parlé d'un contrat entre l'État et l'entreprise SNCF qui va se négocier pendant les mois qui viennent et qui déterminera sur plusieurs années des conditions de retour à la compétitivité enfin d'amélioration de la compétitivité de la SNCF. Donc ça veut dire que on va rentrer aussi dans une négociation sur comment on allège la dette de la SNCF et quel effort on demande aux agents de la SNCF. Donc personne, tout est encore ouvert, je trouve, et on va rentrer dans une discussion contrainte, mais quand même dans laquelle il y a du grain à moudre.
Encore ouvert, vous avez raison Sophie, sauf que tout de même, il y a un bras de fer dont pour le moment l'avantage est au gouvernement, parce que comme vous le disiez, il y a ce poids de 62 milliards de dettes, et Édouard Philippe l'avait bien dit il y a quelques semaines, on est prêt à en prendre une partie du fardeau, à condition que vous, monsieur Pépi, avec les syndicats et la SNCF, vous fassiez avancer les choses, notamment sur le statut. Donc l'épée de Damoclès, elle est quand même plus sur monsieur Pépi et les syndicats de la SNCF, que sur l'État lui-même.
Frédéric Farah, finalement, pourquoi, tout à l'heure Stéphanie Vonneux le disait, on se souvient de 1995, Alain Juppé qui voulait réformer déjà cette SNCF en mêlant aussi les retraites avec. Pourquoi là, il se passerait quelque chose avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui n'a pas pu se passer auparavant avec la SNCF, c'est-à-dire une réforme de la SNCF?
La SNCF, je trouve qu'il faut quand même voir les choses. La réforme, les régimes des retraites déjà des cheminots a déjà été changé. Oui. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas la première réforme. Donc, on est loin d'un statut comme on a pu le décrire très très favorable. Au moment de la réforme Juppé, ça a été la réunion entre une réforme de la sécurité sociale, la réforme de la retraite des cheminots. Donc, il avait ouvert deux fronts à la fois. Au lendemain, enfin trois ans après Maastricht, et donc c'est la conjonction de ces deux phénomènes qui ont fait un peu monter les choses. En même temps, la SNCF, il faut voir les choses en face, elle ne ressemble plus à la SNCF du temps du monopole de 1982. Ce n'est plus une entité unique, elle a été dissociée en filiales. Depuis effectivement l'ouverture et la préparation à la concurrence dans les années 90, on a séparé, vous savez, le réseau d'un côté, il y a réseau d'un côté, mobilité de l'autre, ce qui fait que c'est une entité, si vous voulez, qui a beaucoup changé. C'est-à-dire, on n'est plus dans la logique du service public à l'ancienne. Aujourd'hui, on est en train de passer avec la SNCF, et ça a déjà commencé, d'une logique de service public à transformer la SNCF en une entité financière rentable. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans la logique de l'époque du monopole.
Rentable, pardonnez-moi, avec des limites, parce que le gouvernement dit qu'on ne va pas vers l'équilibre financier, et d'ailleurs il est prêt à prendre une partie de l'endettement. Donc il y a bien, de toute façon, un rôle de la puissance publique financière et donc des contribuables qui persévérera.
Oui, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, de la SNCF, c'est effectivement la manière dont les modalités de financement, enfin de l'État de cette entreprise publique, a changé, si vous voulez, progressivement, et on pourrait remonter avant les années 90, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des entités qui vont être plus rentables que d'autres. Après, dans les lignes qui vont être, par exemple, pour rendre des services publics au niveau régional, peut-être il y aura des formules qui existent déjà de partenariat public-privé. Il y aura des logiques de privatisation plus ou moins déclarées qui vont se faire. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'est plus intégrée, la SNCF. C'est une entreprise qui est découpée.
Stéphanie Vonneux, juste une dernière chose. Est-ce que finalement Emmanuel Macron réalise ce que vous avez toujours souhaité faire avec la SNCF à droite?
Je pense qu'on parlait d'ailleurs des réflexions et des propositions de Guillaume Pépi. Moi, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui il y a déjà près de 2 ou 3 ans. Il parlait déjà de ce plan interne, je me souviens, oui, bien 2-3 ans. Donc on voit que c'est des choses qui sont en germe, qui doivent maturer, mais simplement il y avait besoin d'une fenêtre de tir, ça s'appelle aussi d'une volonté politique
que n'avait pas eu François Hollande,
absolument, puisqu'il avait visiblement est là. Donc il y a une volonté politique, mais je pense qu'il y a aussi un contexte. Le rappelais en disant que ce qui était acceptable hier ne l'est plus du tout aujourd'hui. C'est valable pour les cheminots comme d'autres. Et vous parliez de 95, c'était il y a plus de 20 ans.
Entre-temps, il y a eu Nicolas Sarkozy aussi.
Oui, oui, très bien, mais il n'est pas allé au bout, bien
d'accord.
sûr.
D'accord, pour vous, voilà, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron.
Non, mais je pense que c'est toute une conjonction de choses, c'est-à-dire que ce qu'on acceptait à une époque, on ne l'accepte plus aujourd'hui. Il y avait un certain nombre de plans de rénovation, de renforcer la compétitivité de la SNCF, c'est pas nouveau. Simplement, il fallait à la fois la volonté de l'État politique de le faire, et cette volonté, elle ne descend pas non plus tout simplement du ciel. C'est aussi parce qu'on sent qu'il y a un contexte qui rend cette volonté qui ne soit pas, comment dirais-je, kamikaze.
Allez, on aura bien sûr l'occasion de reparler bien sûr de la SNCF, hein, puisque je vous rappelle ce mouvement de grève, donc 2 jours sur 5, ça commencera entre les 3 et 4 avril prochains. On va parler d'une autre colère avec ce slogan « Macron, t'es foutu, les vieux cons sont dans la rue ». Alors, c'est pas nous, hein, c'était ce qu'on pouvait lire sur une pancarte lors d'une manifestation de retraités à Nice. Une colère qu'on a retrouvée dans de nombreuses villes de France aujourd'hui, puisque les seniors battaient le pavé pour protester à nouveau contre la hausse des 1,7 points de CSG prévue pour 60% d'entre eux. Une grogne qui dure hein, depuis septembre, et en même temps c'est normal, puisque vu que les baby-boomers arrivent à la retraite, c'est une manière pour eux de célébrer le cinquantenaire de mai 68. À leur côté, s'est greffé le mouvement concernant les EHPAD, même mot d'ordre qu'en janvier, plus d'argent afin d'assurer la dignité des pensionnaires de ces établissements dans des situations plus que critiques. Mais avant tout, parlons des retraites. Il y aurait urgence selon ce manifestant de Marseille.
Le caddie alimentaire pour la semaine. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. En tant qu'actifs, on a payé pour les retraités, par-delà nos propres retraites. Et maintenant qu'on est retraité, il faudrait payer pour les actifs.
Voilà, donc ça, c'était une manifestante. Donc à Marseille, Sophie Fay, alors... C'est intéressant ce qu'elle dit parce que le gouvernement a renversé la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit c'est aux retraités les plus aisés d'aider les plus jeunes finalement, aujourd'hui de s'en sortir. C'est plus aux plus jeunes seulement de payer pour les plus anciens.
Écoutez-moi, c'est quelque chose que j'entends mon père dire quand il parle à mon fils. Il dit mais on va quand même pas laisser notre dette à ce garçon-là. Donc au fond, on n'a pas pris sur les retraites les plus modestes, même si ça commence assez vite. Et puis, il y a l'allègement de la taxe d'habitation pour certains. Et puis, il faut regarder aujourd'hui, quand vous regardez tous les pays de l'OCDE, les pays de... La France est celle où le taux de pauvreté des seniors est le plus bas et où le taux de pauvreté des jeunes est le plus élevé. Par exemple, quand vous prenez en Allemagne, c'est l'inverse. C'est un peu l'héritage de l'ancienne RDA. Mais on a en France des retraités qui sont plutôt globalement bien lotis, même s'il peut y avoir des situations individuelles difficiles. Oui, globalement.
Je voudrais pas dire de chiffres erronés qui seront évidemment vérifiés, mais je crois que la retraite, sinon moyenne, en tout cas médiane, on tourne autour de 1200-1300 euros.
Alors 1200, c'est justement eux qui sont taxés.
Mais voilà, 60%. Donc moi je veux bien qu'on ait ce débat sur savoir à quel niveau on est un retraité aisé, mais je pense qu'à 1200 euros, c'est pas forcément la définition, moi, que je m'en ferais. En plus, tout ça dépend aussi de votre lieu de vie, puisque le pouvoir d'achat est évidemment très différent en fonction du lieu où vous vivez. Et je pense que c'est cette injustice-là qui est vécue. On voit beaucoup les gens qui réagissent sur le terme aisé, précisément.
Aisé, ça ne veut pas dire riche, en fait.
Exactement, ouais, exactement. Et en disant, c'est injuste parce que nous ne sommes pas aisés, nous ne considérons pas comme riches, et notre vie est difficile. Et il y a ce deuxième sentiment d'injustice qui est de dire que on a travaillé pour avoir de quoi normalement vivre, à peu près bien vivre ou correctement vivre. Nous, on a déjà travaillé. On le mérite. C'est finalement le résultat d'une vie de travail. Et donc, c'est, je pense, au-delà de tout ça, profondément un sentiment d'injustice qui est ressenti par beaucoup d'entre eux.
Alors, on va continuer à parler des retraités, des seniors. Dans un instant, l'info à 20h20, Léo Técher.
Le terroriste Carlos, à nouveau condamné à la prison à perpétuité. Ilich Ramirez Sanchez, de son vrai nom, était jugé en appel pour l'attentat du drugstore Publicis en 1974. Attentat à la grenade qui avait fait 2 morts et 34 blessés dans ce grand magasin parisien. 3 mois de grève à la SNCF. Les cheminots appelés à une mobilisation reconductible à partir des 3 et 4 avril prochains. Et ce donc 2 jours sur 5. Les syndicats sont ressortis déterminés de leur réunion ce soir face à l'autorité du gouvernement. Il faudra être capable d'une mobilisation sur une très longue durée, demande la CGT. La présidente du Front National, Marine Le Pen, appelle à voter pour le candidat Les Républicains à l'élection législative partielle de Mayotte dimanche prochain. C'est une première pour la présidente du parti d'extrême droite, mais sûrement pas la dernière, puisqu'elle expliquait à ses militants le week-end dernier au congrès de Lille vouloir nouer plusieurs alliances de la sorte. L'Occident fait front contre la Russie, États-Unis, Canada, Allemagne et France, alliés du Royaume-Uni. Ils désignent ensemble Moscou coupable de l'empoisonnement d'un ex-agent double sur le territoire anglais. Ce soir, Emmanuel Macron boycotte le pavillon russe du Salon du Livre de Paris. Des désaccords à propos de Bertrand Cantat au sein même du gouvernement. Il a le droit de vivre sa vie, il a payé, dit la ministre de la Culture Françoise Nyssen à propos de sa condamnation à 8 ans de prison pour homicide involontaire de sa compagne. Marie Trintignant avait-elle aussi le droit de vivre sa vie, répond l'entourage de Marlène Schiappa.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas depuis le mois de septembre. Ce sont les retraités hein, qui protestent contre une hausse de la CSG qui taxe 60% d'entre eux, c'est-à-dire les plus aisés. Alors aisés, on parle de personnes touchant 1200 euros par mois. Frédéric Farah, vous vouliez, je crois, réagir à ce que disait Stéphanie Monneux.
Mais bien sûr, il y a ce sentiment d'injustice qui est tout à fait entendable pour plusieurs raisons. On sait très bien tout d'abord que la CSG, elle a gagné en puissance depuis le début des années 90, elle risque d'augmenter encore. Et donc les personnes âgées risquent d'être encore sollicitées dans le futur. Ça c'est un. Quand vous lisez le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites de juin 2017, il nous dit qu'à législation constante, le niveau de vie des pensionnés comparé à celui des actifs va diminuer. Il nous dit aussi que le taux de remplacement...
Il va diminuer.
Et que, effectivement, le taux de remplacement au fil des générations va devenir effectivement moins important. Donc, d'un côté, effectivement, pour l'avenir des retraités ou des futurs retraités, leur niveau de vie risque de baisser. La CSG va augmenter. Elles ne seront plus revalorisées les retraites pas avant janvier 2019. Et en plus de ça, que voient ces retraités qu'à côté, certains qui sont effectivement plus aisés, bénéficient de mesures fiscales du gouvernement, que ce soit autour de la flat tax, de la réforme de l'impôt sur la fortune. Donc il y a le sentiment d'un deux poids, deux mesures que je comprends tout à fait, surtout que cette situation des retraités va continuer à se dégrader.
Et surtout, c'est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui en France, puisque au moindre déplacement d'Emmanuel Macron, eh bien, il se fait apostropher sur ce sujet, et ça n'a pas raté. Hier, il était à Tours, et ça tombait bien, il a rencontré des personnes qui étaient devant une salle où il devait se rendre, voici en quels termes on lui a adressé la parole. On écoute entre une personne retraitée et Emmanuel Macron.
Là, vous nous avez vraiment pompés.
Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer.
Les retraités, dites donc.
Oui, mais je vais vous expliquer.
On a travaillé toute notre vie.
Je suis d'accord. Ça fait jamais.
Non, on n'est pas content.
Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume. Donc je sais que ça râle. Mais un, je l'avais dit, j'ai pris personne en traite sur ce sujet. Et deux, c'est pour m'aider à faire repartir les choses, parce que sinon. Ça marchera pas.
Voilà, Emmanuel Macron, hier à Tours. Alors, Yannick Halimi, quand on entend ce son, on voit en effet, partout, il se fait apostropher sur ce sujet, sur la hausse de la CSG, les retraités. On sait que parmi les seniors et les retraités, c'est eux qui ont voté, ils ont beaucoup voté, majoritairement Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un risque électoral pour
Emmanuel Macron? Alors, Emmanuel Macron, majoritairement, vous avez raison, au second tour.
Est-ce qu'il y a un risque électoral?
Mais oui, il y a un risque électoral, parce que le risque social pour, comme vous dites, les baby-boomers de 68, il est limité, vous avez vu, il n'y a pas de pavé. La dame, comme disait madame, est plutôt sous le charme. Bon, on ne va pas voir Emmanuel Macron. On ne va pas voir les retraités s'en prendre aux forces de police et vice-versa.
Voilà. Mais il y a un risque.
En revanche, c'est une force électorale extrêmement importante. Il représente aujourd'hui 19% de la population de mémoire, mais 30 à 33% de l'électorat, parce qu'il est extrêmement mobilisé. Il y a moins,
c'est eux qui votent le plus, d'ailleurs,
d'abstentionnistes que notamment chez les jeunes. Et au premier tour, alors il y a deux choses, si vous voulez. Ils ont voté à hauteur de 33 ou 35%. En tout cas, le premier candidat qui est arrivé en tête, ça a été François Fillon.
Oui.
Ça, c'est un élément. Ensuite, le deuxième élément fort, c'est qu'ils sont contre les partis qu'ils estiment populistes, parce que et notamment Marine Le Pen, la France Insoumise également, parce que ce sont des gens qui ont besoin de stabilité. Et pour eux, c'est un peu une prise de risque, la sortie de l'euro, etc. Donc, ces gens-là qui ont voté au deuxième tour pour Emmanuel Macron pourraient tout à fait, la colère continue un peu de les irriter, et surtout voir leur bas de laine, toutes choses égales par ailleurs, hein, parce que ce sont des gens aussi qui ont un patrimoine.
Pour revenir au plan politique,
ils pourraient tout à fait, je termine, puisque c'était votre question, voter par exemple pour un Laurent Wauquiez, dont on voit son discours aujourd'hui est très centralisé sur le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat des personnes âgées et des retraités. Donc oui, c'est un risque politique pour Macron, qu'il assume.
Je ne dis pas que tous les retraités sont riches aujourd'hui, mais je dis que pour les gens qui sont à la retraite aujourd'hui, il était plus facile d'accumuler un patrimoine que ça ne l'est pour les jeunes qui démarrent dans la vie d'aujourd'hui. Or, cette réforme, elle est là quand même pour augmenter un peu le pouvoir d'achat des jeunes salariés, au détriment, c'est vrai, de certains retraités. Et la deuxième chose, c'est que ces retraités qui ont voté pour François Fillon, ils étaient prêts à accepter une hausse de TVA qui aurait aussi amputé leur pouvoir d'achat, mais ils ne l'auraient pas senti. Ils ne l'auraient pas vu, ça ne se serait pas vu en bas de la retraite directement, ça aurait été un petit peu plus discret.
Ça aurait été appliqué à tout le monde.
Mais ils auraient quand même payé plus.
Mais ça aurait été appliqué à tout le monde.
Et donc, ils auraient dû davantage aider leurs petits-enfants ou leurs enfants dans la difficulté.
Le problème initial, c'est que du coup, la TVA, par définition, c'est d'ailleurs une des critiques qui est faite sur l'augmentation de cette taxe, c'est que ça touche tout le monde.
Elle est
facialement juste pour en réalité au fond être très injuste parce qu'évidemment un même point de TVA n'a pas le moins d'impact sur le pouvoir d'achat de quelqu'un d'aisé ou qui ne l'est pas. Mais donc on voit bien la particularité, c'est que les retraités se sentent vraiment visés eux et eux seuls et avec ce sentiment finalement qu'on prend pour cible une partie de la population au bénéfice d'une autre.
On va continuer à en parler dans un instant, on parlera également de ces déplacements d'Emmanuel Macron pour expliquer ses réformes et puis on parlera de ses partis politiques comme les Républicains ou comme le PS qui votent ce soir, qui sont un peu mal en point. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Moi, c'est Étienne. Pour mon nouvel appart, j'économise 15 000 euros sur mon assurance emprunteur. J'ai fait une simulation en ligne, échangé avec un conseiller EOVMCD et souscrit à Aesio Protection Emprunteur en quelques clics. Facile.
Eh oui, changer d'assurance emprunteur en souscrivant à Aesio Protection Emprunteur, c'est économiser sans effort jusqu'à 15 000 euros. EOVMCD Mutuel, parce que vous n'êtes pas un numéro. Offre soumise à condition. Économie moyenne constatée selon profil de l'emprunteur au 31 décembre 2017 par rapport à un panel d'offres concurrentes sous réserve de décision médicale de l'assureur et des conditions d'obtention du prêt.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Demain matin, les éclaircies seront généreuses du Languedoc-Roussillon à la région PACA et du côté de la Corse. Partout ailleurs, les nuages seront déjà bien présents, avec en prime quelques bancs de brouillard, notamment dans le nord et le nord-ouest. Quelques restes d'averses du côté de la région Grand Est. Des averses plus marquées vont reprendre du service dans le sud-ouest. L'instabilité va se renforcer nettement l'après-midi avec des averses parfois orageuses. Les orages seront plus forts sur un axe Pyrénées-Orientales, Est-Massif Central-Bourgogne, où l'on pourra même observer des chutes de grésil. Seules les régions allant des Alpes à la Provence profiteront souvent de belles éclaircies. Les températures, toujours douces pour la saison, seront comprises entre 11 et 17 degrés. Comptez 11 degrés à Brest, 12 à Metz et Nancy, 13 à Tours, 14 degrés dans la capitale et à Bordeaux, 15 à Lyon ainsi qu'à Biarritz, 16 à Nîmes et 17 degrés à Marseille et à Bastia.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les quatre syndicats de la SNCF ont tranché, ils appellent à faire grève 2 jours par semaine à compter de début avril et jusqu'à fin juin. Grève contre la réforme que l'exécutif entend mener au pas de charge par ordonnance. Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, réagit ce soir sur TF1. Il juge la grève un peu décalée en pleine concertation et s'engage à publier chaque jour à 17h la liste des trains qui circuleront le lendemain. Marine Le Pen appelle à voter dimanche à Mayotte pour le candidat Les Républicains Mansour Kamardine à la législative partielle sur l'île de l'océan Indien. Décision qui confirme la nouvelle stratégie du congrès de Lille le week-end dernier. Marine Le Pen tout à l'heure sur CNews.
C'est vrai, nous n'avons pas réussi à trouver de candidat, ce qui d'ailleurs m'a fait prendre une décision. J'ai entendu monsieur Kamardine à la commission des affaires étrangères. Je crois que nous partageons, il a pris tout à fait la conscience de la gravité de la situation de Lille et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de la gravité de la situation, je pense qu'il faut passer au-dessus de nos étiquettes partisanes et que je souhaite que les électeurs qui m'ont fait confiance à l'élection présidentielle à Mayotte, eh bien, se reportent sur le candidat de monsieur Kamardine. Je crois qu'il en va, encore une fois, de l'avenir de Mayotte et que les étiquettes ont somme toute peu d'intérêt. Je l'ai entendu, nous nous rejoignons manifestement sur l'analyse que nous faisons de la gravité de la situation, de la nécessité pour l'État d'arrêter d'abandonner Mayotte, car Mayotte est abandonnée à son sort.
Marine Le Pen ce soir sur CNews. Carlos, à nouveau condamné à la prison à vie pour l'attentat meurtrier du drugstore Publicis. C'était en 1974, il y avait eu 2 morts. Ainsi en a décidé la cour d'assises spéciale de Paris. Après moins de 2 heures de délibération, Elish Ramirez Sanchez, de son vrai nom, a refusé de comparaître aujourd'hui. Il n'était pas là pour entendre la confirmation de la peine qui lui avait déjà été infligée en mars 2017. Le tribunal de Nanterre lui renvoie à la fin du mois, à la demande de David Hallyday et Laura Smets, l'examen de leur référé sur l'album posthume de leur père et le gel de ses avoirs. D'ici là, les avocats de Laetitia Hallyday devront notamment fournir à la partie adverse des précisions sur le trust au sein duquel Johnny aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de son épouse, conformément à un testament rédigé en 2014 aux États-Unis. À l'étranger, un convoi d'aide alimentaire est entré dans l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale aux portes de Damas, où le régime syrien est parvenu aujourd'hui à reprendre une position clé. À pied, à moto, en voiture, 20 000 civils, des familles épuisées et affamées ont encore fui la Ghouta aujourd'hui. L'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni, Londres, Berlin, Paris et Washington estiment que la responsabilité russe est la seule explication plausible et appellent la Russie à s'exprimer sur le sujet. Un haut diplomate russe affirme lui que Moscou n'a jamais développé, y compris du temps de l'URSS, de programme d'armes chimiques Novichok, du nom de cet agent mis en cause dans l'empoisonnement. Emmanuel Macron lui annonce qu'il boycottera le pavillon de la Russie au Salon du Livre de Paris. Et puis cette décision hautement symbolique à un an du Brexit, et un revers aussi pour le gouvernement britannique. Le géant anglo-néerlandais Unilever va regrouper son siège social aux Pays-Bas au détriment de Londres. Les informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et ils s'aventurent sans boussole un peu dans la terre incognita de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent l'économiste Frédéric Farah, également Stéphanie Von E, vice-présidente Les Républicains du Conseil Régional d'Île-de-France, Jannick Halimi du Parisien, aujourd'hui en France, et Sophie Fay de l'Obs. Encore un mot sur cette mobilisation des seniors et des retraités. Frédéric Farah, vous vouliez juste rajouter, je vous ai coupé la parole tout à l'heure.
Mais deux choses très rapidement. Une, par rapport à ce que disait M. Macron à cette dame, il dit oui, qu'en fait, si ces efforts sont faits par les personnes âgées, c'est comme ça que ça va marcher. En gros, ça va relancer l'activité, c'est ce qu'il sous-entend. Moi, je l'inviterais à plus de prudence, parce que ces calculs économiques qui consistent à alléger la fiscalité des plus aisés qui va se transformer en investissement et demain en emploi et en activité pour tous, l'histoire économique récente nous montre que ça marche pas toujours. Donc, à sa place, il faudrait être plus prudent sur ce sujet. Et deuxièmement, par rapport à cet effort de solidarité, qu'on demande une solidarité aux personnes âgées, qu'on demande une solidarité aux cheminots, mais qu'en même temps qu'il y ait des tranches de la population qui a des revenus déjà élevés et qui finalement, par les cadeaux fiscaux qu'ils obtiennent, voient finalement leur part dans la solidarité nationale se réduire d'une certaine manière puisqu'ils bénéficient de la collectivité d'avantages fiscaux, je trouve que ça fait 2 poids 2 mesures et je peux comprendre encore une fois les personnes âgées qu'elles ne comprennent pas ces 2 poids 2 mesures en disant que c'est grâce à leurs efforts que l'économie va repartir. Il faudrait voir si cette politique fiscale va permettre vraiment à l'économie de repartir.
Et c'est vrai, Sophie Fess, qui revient souvent dans la bouche des manifestants aujourd'hui, c'est on voit qu'on transforme ISF, on voit qu'on favorise les plus riches et c'est à nous qu'on demande un effort. Est-ce que là, il n'y a pas un problème au niveau du gouvernement pour faire entendre justement ces réformes et sa politique?
Il y a un problème, d'autant que cet allègement de l'ISF n'a pas été suivi par un retour massif de Français de l'étranger qui sont venus justement montrer que cette théorie du ruissellement, qui n'en est pas une, ferait que l'argent des riches redescend jusqu'aux retraités qui seraient amenés à payer un peu plus de CSG. Donc effectivement, ils ont raison de ce point de vue-là.
Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, donc Emmanuel Macron était à Tours, il était hier et aujourd'hui. Et pourquoi il était là-bas, hein? Tout simplement parce que l'Élysée parle de ce déplacement en Indre-et-Loire comme une expérience en immersion. Et oui, un peu comme Jason Bourne, en fait, hein. Le président de la République a mis une fausse moustache, il s'est assis à la terrasse d'un café et a observé la vie des Français, en faisant croire qu'il lisait un journal, mais comme il y avait des trous à l'intérieur, il pouvait vraiment les voir, en fait. Eh bien, tout simplement, pourquoi il a fait ça? Eh bien, pour expliquer ses réformes. Il a fait un bain de foule, il a fait des selfies, il a fait des discours. Objectif de cette sortie, se rapprocher des Français, expliquer ses réformes, et notamment auprès des zones oubliée. Aujourd'hui, c'est elle hein, qui manifeste le plus. On parle beaucoup de ces écoles qui pourraient fermer au profit eh bien, des UP et des quartiers défavorisés. Mais en fait, on s'était totalement trompé. Parce que quand Jean-Michel Blanquer dit il y a des fermetures de classes dans les zones rurales, en fait, non, c'est complètement faux. Christophe Castaner va vous l'expliquer beaucoup plus simplement. Il était ce matin sur France Info, on l'écoute.
Non. Il parlait de la rentrée, nous étions en juillet, il parlait de la rentrée de septembre et la promesse a été tenue.
Si, si. On ne serait pas été entendu comme ça.
Monsieur, oui, mais monsieur Apathy, alors, ce serait, imaginez que le président de la République pose un principe, celui que, là où il n'y a plus d'enfants, parce qu'il y a des variations dans les communes, même là où il n'y a plus d'enfants, on maintiendrait des classes ouvertes. Je pense que le président de la République n'est pas un imbécile, nous non plus. Il parlait de la prochaine conférence nationale des territoires, et donc il évoquait cette rentrée-là, qui n'a pas été préparée par la précédente équipe, notamment parce que dès le mois de septembre, nous avons commencé à dédoubler les classes dans tous les quartiers REP et REP+. Mais qu'il y ait des classes qui ferment et des classes qui ouvrent, c'est normal.
Voilà, tout simplement. C'est normal, Christophe Castaner, ce matin sur France Info. Stéphanie Vonneux, c'est vrai qu'il y a plusieurs comme ça sujets qui se regroupent dans certains coins de France. On le voit sur ces zones, sur la ruralité, sur les problèmes aussi d'emploi qui seraient plus forts, sur ces classes qui ferment. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris en compte, vous pensez, par le gouvernement, qui est mieux compris? Ou pas, ou quand on entend Christophe Castaner, là, obligé de se dépatouiller.
Il y a peut-être une prise de conscience, mais à ce stade qui est intellectuelle et dont le gouvernement reste encore assez éloigné, ou en tout cas, à défaut du gouvernement, Emmanuel Macron. On voit bien que, d'ailleurs, ça a été dit à l'époque, c'est le candidat plutôt parisien, des métropoles, les représentants des collectivités locales, d'ailleurs, pourraient en parler, en disant qu'il y a un centralisme, une recentralisation. C'est aussi le candidat des start-upers, de cette économie à la fois virtuelle et internationale et dont ces zones-là et puis j'allais dire l'économie réelle industrielle agricole est très très éloignée aujourd'hui et a le sentiment, je pense à juste titre, de ne pas être traité ou d'avoir l'impulsion dont bénéficient d'autres secteurs.
Finalement aussi, Stéphanie Vonneux, c'est pas un peu facile de dire ça d'Emmanuel Macron? Parce que on voit aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui dirige Les Républicains, qui dit Emmanuel Macron, c'est le candidat des métropoles, mais en fait, il est né à Amiens, Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez a fait exactement les mêmes études que lui, aux mêmes endroits.
Non, mais c'est pas une question de naissance ou de. C'est vraiment une question, je pense, de philosophie et d'appréciation des choses. Moi, je pense que j'ai strictement rien contre le fait d'appréhender la mondialisation et d'essayer de bien la vivre et pas de la subir. Donc, ça passe. C'est pour ça que je suis pas dans l'opposition absolue à Macron de ce point de vue-là. Néanmoins, on parlait de rythme à deux vitesses. La France, je suis désolée, c'est pas les 8 ou 10 métropoles et il y a effectivement encore des zones rurales et heureusement auxquelles on est absolument attaché, le fameux clocher et le village. Simplement, s'agissant des écoles, oui, c'est vrai que c'est tout le problème de la désertification. Vous avez effectivement des villages qui se vident de leur population et donc le seul moyen de faire revivre une école, c'est finalement de redévelopper l'activité économique et faire en sorte qu'elle ne soit pas uniquement concentrée dans les zones urbaines ou périurbaines.
Jeanne Calimi, on l'entend souvent cette critique autour d'Emmanuel Macron.
Oui, alors je suis d'accord, il y a certainement une part de philosophie, le premier de la classe, les grandes villes, etc., qui doivent entraîner tout le reste de la population.
Mais je pense l'innovation.
Et l'innovation.
L'innovation permanente, toujours. Donc, c'est ce qui est de
dire. Il y a cette propension intellectuelle chez lui, mais il y a autre chose, surtout, que n'a pas Laurent Wauquiez, puisque vous en parlez, qui en fait, effectivement, de cette fracture territoriale bien et bien sûr sociale, un élément très très fort avec les personnes âgées, de sa reconquête, entre guillemets, électorale. Ce que n'a pas Emmanuel Macron et qui explique en partie le fait que, encore une fois, il semble en désaccord avec ou en rupture ou en distance avec, entre guillemets, les territoires, c'est qu'il n'a pas de parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas ses relais locaux, ses relais électoraux, ses relais départementaux, régionaux, etc., que peuvent avoir d'autres partis importants qui sont là depuis des décennies, comme les Républicains et ses prédécesseurs, ou le Parti Socialiste. Il a dans le gouvernement quelqu'un comme Jacques Mézard, qui est effectivement...
Alors, il faut juste dire qui est Jacques Mézard, c'est le ministre de la Cohésion des Territoires.
Qui est surtout le sénateur du Cantal et qui a des relais. C'est le cas de Richard Ferrand également, qui a été ministre, qui est le président du groupe LR. À l'Assemblée nationale et de Madame Gourault.
Donc il lui manque cette assise en tout cas.
Ça, voilà. Il essaie de le construire et les éléments, les derniers qui montrent encore qu'il est un peu à côté de la plaque, si je puis m'exprimer, c'est bien sûr la taxe d'habitation dont on ne sait pas comment ça va être remplacé. Et puis le fameux 80 km/h.
Alors ça, on va en parler dans un instant.
Qui crée des remous.
Des remous un petit peu partout en France. Et l'info à 20h41, et oui, hein, c'est Léo Téchère.
Le PDG de la SNCF prend la parole après l'appel à la grève des syndicats. Pour lui, c'est un peu décalé en pleine concertation sur la réforme. L'intersyndicale appelle ce soir à une mobilisation plutôt rare parce que très longue. 3 mois de grève à raison de 2 jours sur 5. Cela commencera les 3 et 4 avril prochains. Qui peut sauver le Parti Socialiste? Les militants votent ce soir pour élire leur nouveau premier secrétaire. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel sont les 4 candidats. Fermeture des bureaux de vote dans un peu plus d'une heure, à 22h. Le deuxième tour est prévu dans 2 semaines. Les blocages continuent à Mayotte, désormais menacés par la pénurie. Moins d'une semaine de stock dans les supermarchés, affirment les 2 grands groupes de distribution de l'archipel. L'hôpital de Mamoudzou s'inquiète, lui, à propos de l'approvisionnement des médicaments. 2 exécutions prévues ce soir aux États-Unis. Une injection létale pour Michael Eggers, 50 ans, condamné à mort pour le meurtre d'une femme en 2000 en Alabama. Carlton Gary, âgé de 67 ans, sera lui exécuté en Géorgie pour un triple meurtre remontant à 1977. Wissam Ben Yedder et Lucas Hernandez appelés en équipe de France. Les 2 footballeurs jouent en Espagne, l'un au FC Séville, l'autre à l'Atlético Madrid. Ils pourront glaner leur première minute de jeu en amical contre la Colombie et la Russie dans 1 semaine, et ce, 3 mois avant la Coupe du Monde.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Emmanuel Macron se déplace beaucoup en ce moment. Il marche, hein, alors que ce soit en train, en voiture, en avion. Et notamment en France, il fait beaucoup de déplacements. Aujourd'hui et hier, il était à Tours, dans l'Indre-et-Loire. Sophie Fay, on connaît ces techniques. Ça, c'est des vieilles techniques. C'est pas tellement nouveau monde, hein, d'Emmanuel Macron. Quand on a une petite baisse dans les sondages, hop, on part en région. C'est aussi pour ça qu'il le fait en ce moment, le président. Il se déplace pas mal en région pour ça.
Je crois qu'il a compris qu'il avait un déficit de popularité dans cette France, c'est même pas rural, puisque là, il était à Tours. Ouais, donc il y va. Mais à vrai dire, moi, je suis pas d'accord quand on dit qu'il est loin de ses territoires, qu'il ignore cette France, qu'il ne sait pas. Il est absolument conscient des déséquilibres entre les métropoles qui vont bien et les villes qui vont moins bien. En fait, on voit... Mais la seule difficulté, c'est que c'est un problème qui est insoluble et dont personne n'a trouvé la solution, et que tous ceux qui disent qu'ils vont, enfin, si Laurent Wauquiez a une solution, une baguette magique pour rééquilibrer les territoires, qu'ils la sortent, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, quand on voit que vous avez des villes qui augmentent, dont la masse salariale augmente de 20%, a augmenté de 20% depuis la crise de 2007, et puis vous avez d'autres endroits où la masse salariale n'a pas du tout augmenté, c'est-à-dire qu'on crée pas d'emplois, on recrute pas plus, et donc finalement les populations s'en vont. Et ben, vous vous retrouvez avec des villes où l'immobilier baisse, où le commerce va moins bien, où finalement les gens commandent plus par internet parce qu'ils trouvent pas ce qu'ils trouvent sur place. Donc tout ça, c'est des ventes qui sont moins sur le commerce. Il y a rien. C'est pas la finance, l'industrie réduit, se robotise, il y a moins d'emplois qui sont créés. C'est pas la finance qui va le remplacer. C'est pas l'innovation et la tech qui va aller là. Il leur reste un peu de tourisme, un peu d'agriculture qui est en crise depuis quand même pas mal d'années.
Oui.
Donc
où est la baguette magique? Quelle est la solution? L'aménagement du territoire, il y a quand même beaucoup de choses.
Frédéric Farin.
Non, mais là-dessus, sur le territoire, c'est que effectivement, l'idée qui a pu prévaloir dans l'aménagement du territoire, qui était de créer une péréquation entre les territoires, créer de l'égalité entre territoires, a reculé par rapport à une notion qui est celle de l'attractivité, qui rentre en tension avec celle, effectivement, d'une égalité entre les territoires. Et Macron, effectivement, il bricole différentes choses, et le grand mot qui est le sien et celui du gouvernement, chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises ou qui sont pas les bonnes, c'est « j'assume ». Si vous avez remarqué, c'est le grand mot, c'est « j'assume ». Et en fait, si vous voulez, c'est une manière de se dédouaner. Il a dit à la personne âgée tout à l'heure, oui, la personne âgée, j'assume, hein, s'il le dit.
J'assume en même temps.
J'assume en même temps. Effectivement, c'est un petit peu une langue néo-managériale qui passe très bien. Bon. Mais cela étant dit, il y a aussi un problème dans les territoires, qui est aussi effectivement le problème des villes moyennes également, avec tout ce problème autour des centres-villes.
Mais il y a eu tout de même un conseil des ministres qui s'est déplacé à Cahors, par exemple.
Mais bien sûr,
il y a plus qu'un conseil des ministres. Il y a aussi une stratégie. Alors, elle marche ou elle marche pas, mais enfin, effectivement, on peut dire qu'il y a une prise de conscience, donc comme vous le disiez, Sophie, mais ça va être très compliqué. Mais le maître mot, là, de la politique du gouvernement, gouvernement, avec Monsieur Mézard, dont on parlait Jacques tout à l'heure.
On peut l'appeler Jacques maintenant, Jacques vous savez, Mézard. Maintenant, voilà, non Jacques. Maintenant.
C'est la métropolisation, c'est-à-dire faire en sorte que, c'est la théorie aussi du ruissellement, mais d'un ruissellement organisé, pas libéral et sauvage, autour d'une métropole qui doit faire profiter les petites villes autour de la grosse.
Une dernière chose, tout de même aussi.
Il y a quand même un discours, il n'y a pas que déjà su.
Une chose, Stéphanie Vonneuse.
Une politique,
Pourquoi les Républicains aujourd'hui font campagne contre les 80 km/h. On voit Édouard Philippe va se déplacer demain pour défendre cette réforme. Ça paraît assez étonnant parce que même si, bien sûr, dans certains coins de France, on peut comprendre qu'il y en a marre, mais surtout de la part des Républicains, puisqu'on se souvient quand même de Jacques Chirac qui en avait fait l'un de ses grands chantiers de sa présidence. Pourquoi finalement vous avez décidé de vous attaquer à cette réforme ?
Alors d'abord, une précision, pas tous les Républicains.
Non, voilà, pas tous, mais très bon. Voilà.
Puisque, précise, puisque Valérie Pécresse a eu l'occasion de rappeler que, elle, si on lui faisait la démonstration, et ce qui semble être le cas dans les études, qu'il y avait effectivement un réel impact, c'est d'ailleurs, Édouard Philippe ne dit rien d'autre que cela, en disant on va l'expérimenter, puis on verra à l'issue si ça a un impact, elle a déclaré qu'elle était tout à fait prête à suivre cette mesure. Mais je pense surtout que au regard de tous les défis qu'il y a, et notamment celui qu'on vient d'évoquer, sur la désertification, on parle de désertification, mais il y a une embolie à côté de ça des métropoles. C'est une élue de la région Île-de-France qui vous le dit. Donc c'est un double déséquilibre, le trop pas assez d'un côté, le gros trop plein de l'autre.
C'est pour ça qu'il faut réguler.
Exactement, donc c'est pas uniquement, uniquement que d'un côté. Mais donc au regard des différents défis qui se présentent, on se dit, mais qu'est-ce que, comme dirait l'autre, qu'est-ce qu'on va encore emmerder les Français avec ça? Alors,
les partisans, les Français, c'est la sécurité routière.
Oui, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Les partisans vont dire, mais attendez, une vie n'a pas de prix. Ouais. Je suis la première à le reconnaître. Mais de dire, voilà, dans tout le train de réforme qui est fait, est-ce que celle-ci doit être mise devant et martelée et revendiquée, alors même que, vous avez une population qui dit, nous, on a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de déplacement, on a un problème
de... Il y a eu 4000 personnes tuées.
On a un problème d'aménagement du territoire, on a un problème de logement, on a un problème, et maintenant, on va nous embêter également sur les routes.
Oui, mais
c'est un argument. Il y a celui
ils
en
le disent
face, effectivement, pour la hausse qui est que c'est la protection routière.
Ils
le disent pour évidemment
bien sûr, mais bien sûr.
Après, ils assument quoi.
Un tas de.
ils assument. Non,
c'est ça, Frédéric.
Quand je dis ils, c'est pas le gouvernement. Oui, je dis que c'est l'opinion publique. Oui. Évidemment, ceux qui fument sont contre la hausse du prix du tabac, etc.
S'agissant de la sécurité,
il y a des raisons de.
J'entends bien. Moi, je suis plutôt là aussi sur la ligne de Valérie Pécresse en disant si on a la démonstration et que ça vous montre que ça a des résultats concret, il ne doit pas y avoir de débat. Oui, enfin, c'est pas si...
Juste une chose.
Juste termine, Jean-Mathieu. C'est que ce qui est terrible pour les partisans de cette mesure, c'est qu'on nous fait la comparaison avec d'autres pays européens où il n'y a précisément pas de limitation de vitesse et où il y a moins de morts. Et donc, c'est un argument qui est avancé en disant arrêtez de mettre des règles qui sont respectées ou pas respectées, arrêtez de nous emmerder.
Bon, alors, Sophie Fay, là, on voit bien quand même que c'est quelque chose qui touche véritablement, aussi pareil que comme les retraites, c'est-à-dire depuis que ça a été annoncé par Édouard Philippe au mois de janvier, on le voit bien, quand on se déplace, quand on part en région, on voit bien que c'est une chose dont on parle très régulièrement, cette histoire de 80 km/h.
Oui, cette histoire de 80 km/h, c'était vraiment un vœu d'Édouard Philippe. C'était pas du tout quelque chose qui était dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc,
il le défend. Pas non plus, Emmanuel Macron n'avait pas dit non plus qu'il ne toucherait pas aux 80 km/h. Enfin, aux 90.
Alors,
Frédéric Farrand.
Mais vous voyez un peu la confusion. D'un côté, on a Édouard Philippe qui veut que ses 80 km/h. Visiblement, Monsieur Macron ne veut pas. Monsieur Blanquer dit qu'on va fermer les écoles. Monsieur Castaner dit quelque chose absolument incompréhensible. Si quelqu'un l'a compris, je serais ravi qu'on me l'explique parce que je ne sais pas si c'était en français ou autrement. C'était impossible. Donc, si vous voulez, il y a quand même derrière cet aspect communication, on va voir les gens. Il y a quand même une confusion à l'arrière qui est quand même considérable parce qu'on a l'impression, par moment, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, même si on a l'impression que le pilote, c'est Jupiter, il est très présent, mais comment dire, on s'interroge, quoi, parce que vraiment, on a l'impression qu'il y a de la cacophonie, et puis derrière la communication, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y a des questions qui sont aussi à mettre en avant, entre ce déséquilibre des métropoles et le reste, et ces questions de pouvoir d'achat, d'aménagement du territoire, même si effectivement la sécurité routière est une chose essentielle. Mais on a l'impression quand même d'une cacophonie. Et puis tout à l'heure, entre les sujets qu'on étudie, qu'on est en train de travailler, on observe que dans le gouvernement, c'est pas très clair.
Allez, dans un instant, on va parler des partis politiques, parce que vous savez, c'est soir de vote au Parti Socialiste. L'info à 20h50, Léo Téchère.
Autour du
du gouvernement de réagir à l'appel à la grève à la SNCF. Une posture incompréhensible selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Les syndicats sont déterminés. Ils appellent à une mobilisation reconductible jusqu'en juin prochain à raison d'une grève de 2 jours sur 5. Cela commencera les 3 et 4 avril prochains. Aujourd'hui, c'était les retraités qui étaient en manifestation. Des milliers partout en France. 30 000 selon les syndicats à Paris. Ils manifestaient contre la hausse de la CSG pendant que les personnels des EHPAD demandaient plus de moyens pour les maisons de retraite. Ils fuient la Ghouta orientale par tous les moyens, à pied, en moto, en voiture, par dizaines dans des camions ben. Plus de 20 000 civils ont fui cette enclave rebelle en Syrie alors que les troupes du président Al-Assad intensifient leur siège sur ce territoire. Le terroriste Carlos, à nouveau condamné à la prison à perpétuité, Ilich Ramirez Sanchez était jugé en appel pour l'attentat du drugstore Publicis en 1974, attentat à la grenade qui avait fait 2 morts et 34 blessés dans ce grand magasin parisien. Un internaute français débouté par la justice française, il reprochait au géant américain Facebook d'avoir fermé son compte quelques heures après la publication de L'Origine du Monde, le tableau de Gustave Courbet qui représente un sexe féminin, mais il n'y a aucune preuve selon le tribunal que c'est pour cette publication que le compte a été désactivé.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors que ce soir se tient le premier tour au Parti Socialiste pour savoir qui va prendre les rênes du parti. On connaîtra les résultats définitifs normalement demain matin, parce qu'on vote jusqu'à 22h. On se rend compte du manque d'intérêt du grand public pour ce scrutin. Un manque d'intérêt déjà qu'on avait déjà évoqué lors de l'élection chez les Républicains, ayant vu Laurent Wauquiez triompher. Point commun entre les deux, le nombre de votants en fait intéresse davantage que les candidats. Alors en décembre, sur 235 000 militants républicains, ils sont 99 000 à avoir voté. Et ce soir, le PS attend 30 000 votants pour 100 000 militants. Alors, y a-t-il un vieux et un ancien monde des partis politiques? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent encore exister? Alors, Stéphanie Vonneux, je vais juste au départ vous poser une question par rapport à l'actualité. Ce soir, là, il y a Marine Le Pen qui a appelé. Il va y avoir des législatives à Mayotte, bon, en plein chaos sur place. C'est dimanche. Il n'y a pas de candidat Front National. Et Marine Le Pen a dit, eh bien moi, j'appelle officiellement à voter pour le candidat des Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est rarement vu quand même que le Front National appelle à voter pour les Républicains. Une situation est particulière après que Laurent Wauquiez ait dit il faut revenir sur le droit du sol là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez de...
Pas grand-chose. Je pense que c'est une affaire interne au Front National. On voit bien la démarche. Hein. Il y avait son congrès le week-end dernier, je crois.
Oui, tout à fait.
Où clairement, au moins c'est clair. Hein, clairement, il était affiché la volonté de nouer des alliances. Bon, il y a une élection législative où le candidat Front National n'est pas au deuxième tour. Bon,
sur un sujet quand même bien particulier, parce qu'on parle d'immigration, Mayotte, hein, c'est un sujet prégnant. Sur Laurent Wauquiez qui était allé, et qui est allé d'ailleurs à Mayotte, est-ce que c'est un signe, je veux dire, pour elle? C'est-à-dire que si le candidat LR gagne, ça va être difficile de se défaire?
Je pense que c'est vraiment de la stratégie politique pure, d'essayer de faire valider son choix, d'essayer d'aller gratter où certains chez les Républicains pourraient éventuellement être tentés. Donc voilà, elle tente le coup, mais c'est de la stratégie politique, j'allais dire, évidente, enfin, qui est plus grosse, comme le nez au milieu de la figure.
Yannick Halimi, est-ce qu'on peut aussi peut-être parler de, peut-être que ça se fait pas au niveau de l'état-major, mais au niveau de l'électorat, cette porosité, peut-être, qui peut exister?
Ah bah bien sûr, elle peut totalement exister. On sait qu'on parlait tout à l'heure de la présidentielle, qu'il y a une partie de l'électorat de François Fillon qui n'est pas allée vers Emmanuel Macron et qui est allée vers Marine Le Pen et qui s'est peut-être également retourné aux législatives, enfin qui a abandonné le Front National au moment des législatives. Donc cette porosité existe. Au niveau des alliances entre les électorats, je veux dire, et peut-être bien sûr au niveau des idées, mais au niveau des alliances d'appareil, on est obligé de faire confiance à ceux qui tiennent, qui sont sur l'estrade. Et pour le moment, Laurent Wauquiez, en tout cas au niveau national, au niveau local, je n'en sais rien. Et lui non plus. Il y a toujours un risque. On se souvient de ce qui s'est passé avec les régionales de 98, je crois,
oui,
où il y a trois.
Tout à fait. Il y a eu des alliances entre.
Il y a eu des alliances.
Le RPR de l'époque.
Alors en fait, c'était il venait plutôt du Centre. Il venait plutôt de l'UDI. Donc ce que je voulais dire.
Il y a un électorat qui peut être finalement.
Il y a un électorat, mais en tout cas en termes d'alliance, comme le souhaite Marine Le Pen, je ne pense pas que la position qu'elle ait prise, la ligne qu'elle semble avoir adoptée au congrès auquel vous y allusiez, Madame, tout à l'heure, qui est à droite toute, je ne pense pas qu'avec ça, elle va pouvoir susciter des alliances, même avec les Républicains de Laurent Wauquiez.
Sophie Fay, juste un mot rapidement sur ces partis politiques, le Parti Socialiste, les Républicains, il y a un an encore, là, avant la campagne présidentielle, on en parlait véritablement comme, finalement, ces deux piliers de la démocratie française. Aujourd'hui, ils sont mal en point. Ce soir, le PS vote, on sait à quel point ça a été compliqué d'organiser ce vote. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, l'opposition, à votre avis, elle s'est toujours pas reconstituée? On ne voit pas d'opposition véritable à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de sujet pour accrocher.
Ça me laisse sans voix, c'est vous dire à quel point, il a du mal à se reconstituer, quel point on a du mal à parler de cette élection au Parti Socialiste. C'est vrai que le débat n'était pas passionnant. Mais au moins, c'est resté courtois. Donc, la reconstruction est à venir.
À venir, exactement. C'est le même terme que, finalement, chez les Républicains également. Frédéric Farah, vous avez regardé d'ailleurs ce débat ou pas entre les quatre candidats?
Non.
N'hésitez pas à le dire.
Vraiment pas. J'avoue, non. Je pense que le Parti Socialiste, ce cycle qui avait commencé à épiner, c'est fini. Ce parti, toute une partie... des socialistes est parti du côté de chez M. Macron. Là, je ne suis plus trop sûr que, pour l'instant, ils ont un avenir. Hein. Je crois que... Vous savez, c'est comme à une époque, dans l'histoire française, il y a eu le parti radical socialiste, qui a été du 19e jusqu'à une partie des années 50 qui a pu un peu exister, puis il a disparu. Peut-être que c'est le tour du Parti Socialiste.
On ne sait pas, Stéphanie Bonneux.
Oui, juste, on voit bien que les partis dits traditionnels ont pris, je vais parvenir là-dessus, la grosse claque. Mais néanmoins, si on observe les élections partielles, on voit bien que ce clivage droite-gauche existe encore. Et que des circonscriptions traditionnellement à droite sont revenues à droite, des circonscriptions traditionnellement à gauche étant passées de revenir à gauche. Et moi, j'ai la conviction que si aujourd'hui le Parti Socialiste et la droite sont un peu en difficulté, En Marche peut potentiellement l'être, parce que ne tient que par Macron. Emmanuel Macron et qu'En Marche est en réalité construit sur du sable.
En tout cas, on en parlera nous demain dans les informés de France Info. Merci beaucoup Stéphanie Bonneux d'être passée ce soir. Merci Frédéric Farah. La une de l'Obs cette semaine, Sophie Fay.
On a fait un sondage sur la PMA et la GPA et les Français sont pour.
Plutôt pour. Voilà. Yannick Halimi, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Nous, c'est poison diplomatique.
À retrouver demain à propos de la Russie. Il est temps pour nous de retrouver exactement Olivier de Lagarde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Tout est politique au programme ce soir.
Eh bien, on va tenter un truc. Vous savez, quand on fait un débat politique, en général, on prend des gens de partis différents et puis on jette un bout de viande sur la table et puis on voit ce qui se passe. Et bien là, quelque chose de tout à fait nouveau, nous allons avoir, tenez-vous bien, 4 élus du même parti dans Tout est politique, 4 socialistes, et oui, il y aura peut-être plus de socialistes, et je ne suis pas sûr que ce soit le débat le plus calme auquel nous allons assister. Tout est politique dans quelques minutes.
C'est à suivre les faits sur France Info.